Trisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
du Trisac.
Patrick Derry est avec nous, il est analyste en politique publique. Patrick, bonjour.
Bonjour Benoît.
Bon ben, alors on peut avoir toutes sortes de virus, de variants, on s'en fout, il n'y aura pas de grève à la SAQ.
Écoute, c'est déjà ça.
Ben, je trouve.
Bon, écoute, dans une pandémie, l'alcool c'est important des fois, ça sert de lubrifiant pour nos différents problèmes. On sait que les ventes ont augmenté un petit peu. T'es pas d'accord avec ça?
Mm-hmm.
C'est bon. Écoute, moi je voulais en parler un petit peu parce que on a un modèle de vente d'alcool qui est assez particulier au Québec. Et bon, c'est un bien de luxe. C'est correct que ça soit taxé. Ça rapporte à l'État à peu près 1,2 milliard en recettes chaque année. Mais pour aller chercher ces recettes-là, on s'y prend de la façon la plus compliquée possible. C'est-à-dire que on a 7000 employés, on a 400 magasins, ce qui est à peu près le même nombre que CHSLD.
Ils sont tous très beaux, hein? Très chics.
Oui, oui. Ouais. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Les magasins de la SAQ ont tendance à être plus beaux que les CHSLD. Et pour je sais pas pourquoi. Et pour pouvoir vendre le vin, t'as des bureaux, des camions, des acheteurs, des entrepôts, un réseau de distribution, t'as toute une infrastructure qui est séparée juste pour ça, puis qui gonfle les coûts de vente. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu vas en France, par exemple, dans la plupart des pays d'Europe, l'alcool est en vente libre. Et tu peux en acheter, tu as des boutiques spécialisées, tu peux l'acheter à l'épicerie. C'est aussi le cas dans plusieurs États américains. Fait qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que l'État prélève une taxe, puis après ça, ben il laisse tout le reste aller. Fait que donc, il récolte le produit de la taxe, mais il n'y a pas besoin de payer tout un réseau à part qui est très, très lourd. Fait que quand on pense à ça, le coût du vin ici, là, une raison pour laquelle ça coûte cher, c'est qu'on a des coûts de vente qui sont très élevés parce qu'on a décidé de le vendre séparément. Puis c'est un truc qui arrive de la prohibition. Fait que sans tout privatiser demain matin, peut-être qu'ouvrir un peu puis repenser à des façons de faire qui datent d'un siècle pourraient être à voir.
Eh hey boy, bonne chance, hein? Puis c'est vrai que tu vas dans un supermarché aux États-Unis, Patrick, puis t'as un mur de... C'est vrai que t'as des tablettes de vin, puis de vin pas pire pantoute, d'ailleurs.
Ah oui, absolument. T'as des vins, des fois, là, écoute, dans l'état du New Jersey, où tu y allais souvent, t'as des vins qui valent très cher, qui sont en épicerie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que t'as pas de coût de vente, parce que, mettons, l'épicerie du coin décide de... mettons le métro à Wildwood, par exemple, décide de vendre du vin, ben à un moment donné, ils vont enlever des produits qui vendent un peu moins, ils vont mettre un mur, ils vont mettre du vin là-dessus. En termes d'infrastructure additionnelle, c'est complètement assumé par le privé, puis c'est très peu, en fait, pour l'entreprise. Ils font juste sortir d'autres produits. L'État récolte quand même le niveau de taxe qu'il veut récolter, mais t'as pas de coût de vente en dessous de ça.
Mais t'as pas les profits non plus.
Ben oui, parce que tu peux aller chercher, tu vas chercher avec ton niveau de taxe, tu vas chercher ce que tu veux, tu décides de ton niveau de taxe pareil. Fait que si l'État décide d'aller chercher 1,2 milliard par année en vente d'alcool, ou 2 milliards, ou 8 milliards, ou 20 milliards, il met un niveau de taxe approprié. Mais il n'y a pas besoin de payer pour toute l'infrastructure qui est en dessous. Et les commerces qui font ça, mettons des épiceries par exemple, ou des pharmacies ou d'autres, ils vont faire des gains d'échelle ou des synergies parce qu'ils ont déjà une infrastructure de distribution en place. Ils vendent déjà des céréales, des légumes, du lait et d'autres affaires. Ils mettent du vin, comme les épiceries ici en vendent du vin ici, mais la sélection est beaucoup plus limitée.
Ouais.
Ils ne peuvent pas vendre tout ce que la SAQ peut vendre.
Bon, grosse fin de semaine pour la COVID, puis on n'est pas sorti du bois.
Écoute, ceux-là que je pensais tantôt en m'en venant chez moi, ceux qui ont passé la fin de semaine au chalet, le peinard, là, puis qu'ils n'ont pas ouvert le journal depuis jeudi, puis qu'ils ont fait le matin, ils ont dû faire tout un saut. Écoute, d'abord, on a eu deux journées au-dessus de 1000 cas. C'était pas arrivé depuis le 21 avril. Le 1171 cas samedi, là, c'est le plus haut total en plus de 6 mois. On a eu 3 autres journées à 900 cas. Les hospitalisations ont recommencé à monter tranquillement. On a un nombre de cas records dans les écoles primaires. Ça, c'était quand même déjà pas mal et pas nécessairement une bonne nouvelle, même si la vaccination des enfants a commencé. Et là, Omicron débarque. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud? Les cas avaient baissé beaucoup et subitement, on est passé de quelques centaines de cas par jour à quelques milliers de cas sur un espace de 2 semaines. Et on a découvert un nouveau virus qui avait une trentaine de mutations, certaines qui le rendent vraisemblablement plus transmissible, et peut-être aussi qui pourrait passer par-dessus les défenses de l'immunité acquise, que ce soit naturellement ou par le vaccin, de ce qui reste à confirmer, ceci dit. Et évidemment, ça s'est répandu très, très vite parce qu'il est déjà présent dans plusieurs pays d'Europe. Il est arrivé au Canada et il y a déjà un cas qui est suspecté au Québec présentement. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que pour l'instant, les symptômes semblent tout de même légers, mais écoute, c'est vraiment une traînée de poudre.
Puis en même temps, ça, l'Afrique du Sud a un taux de vaccination de 24 % l'Inde de 32 % puis c'est comme il manque de vaccins, il n'y a pas de volonté politique ou je sais pas, mais moi, Dr Liu, là, Joanne Liu me disait, si on s'occupe pas des pays les plus pauvres, et ça va nous rattraper, puis c'est ce qu'on constate présentement, là.
Elle a tout à fait raison. Puis, écoute, c'est une réflexion qui a été faite par plusieurs aussi. Puis moi, je repense au cas qu'avait fait le magazine The Economist il y a quelques mois, qui avait dit les pays riches devraient augmenter massivement leur production de vaccins et les donner aux produits, aux pays en développement pour fermer ça, et que ça serait d'abord, ça serait la bonne chose à faire d'un point de vue purement moral. Mais en plus aussi, d'un point de vue purement égoïste sur le plan économique, ça aurait été une bonne chose à faire aussi, parce que si tu le laisses circuler, ça va venir nous mordre derrière. Malheureusement, c'est pas ça qui s'est passé. Fait que là, on risque de vivre... Tu sais, le reste du monde moins développé, disons, est un peu un incubateur à virus. Fait que ça se peut... C'est pas nécessairement le dernier des variants qui va arriver non plus.
Non, puis moi, je pense que bientôt, on va tous l'avoir. Fait que ça va être réglé.
Écoute, peut-être si on est tous vaccinés, c'est un peu moins pire. Moi, c'est ça à quoi je pense aussi. Tu sais, imagine si on s'était occupé des écoles comme il faut. C'est à peu près la moitié des éclosions, puis en tout cas un peu moins de la moitié des cas présentement, mais évidemment, les cas dans les écoles, ils ressortent. À la place d'avoir un nouveau variant qui arrive, puis qu'on soit à 1000 cas par jour, on aurait peut-être 300-400 cas par jour. Ouais. Tu sais, ça aurait été un scénario différent. Il y a une idée que j'avais évoquée, que d'autres ont évoquée aussi. Quand la FDA était en train d'examiner les données pour le vaccin des enfants, on a dit pourquoi que le Canada ne suivrait pas automatiquement l'examen. C'est un peu comme Israël avait fait pour les adolescents et pour les enfants, c'est-à-dire que quand la FDA a donné de go, ils ont suivi très rapidement sans faire l'examen des données eux-mêmes. L'Autriche l'a fait aussi. Si le Canada avait fait ça, on aurait commencé la vaccination des enfants 3 semaines plus tôt. 3 semaines plus tôt, là, c'est le temps que la première dose puisse donner un bouclier assez fort contre la contagion. Et quand tu regardes ça, à un moment donné, ce genre de décision-là, audacieuses, innovatrices, qui sont pas nécessairement prises par la majorité des pays, il faut le reconnaître, là. Et tu dis, à quoi faire un peu notre santé publique? Parce que chaque fois qu'une nouvelle idée, qu'une nouvelle proposition arrive, là, la première réponse est toujours non. T'sais, est-ce qu'on met des masques? Ah, attention, ça peut donner un faux sentiment de sécurité, ça peut être dangereux. Hey, il y a des tests rapides, ça c'est cool, c'est un peu moins précis, mais tu sais, t'en passes vraiment beaucoup puis tu peux l'attraper. Ça pourrait donner un faux sentiment de sécurité. Hey, on pourrait filtrer l'air, ça serait vraiment hot. Ouais, c'est peut-être dangereux. Tu sais, des fois, l'air est renvoyé dans la mauvaise direction. Après ça, le criblage. Hein, l'année passée, au début de février, il y avait d'autres provinces qui faisaient du criblage puis du séquençage de façon très avancée. Au Québec, on faisait presque rien. C'est le premier cas de variant détecté, Alpha, a été détecté par l'hôpital des Shriners, qui est un hôpital financé par le gouvernement, mais c'est un hôpital privé. La santé publique est arrivée après. Et qu'est-ce que Dr. Arruda disait? Moi, on n'a pas vraiment besoin de faire ça, du criblage, savoir c'est quoi les cas en Abitibi. On a juste besoin de, tu sais, l'important, c'est les mesures sanitaires. Le passeport vaccinal, ça a été proposé au printemps. Faux sentiment de sécurité, on veut pas trop l'utiliser. Les aérosols, écoute, on pourrait continuer, là, mais, c'est le virus, il va un peu plus vite que nous autres.
Mais il est où, là? Parce que là, on voit M. Dubé, mais M. Arruda, Mme Tam, à Ottawa, sont pas très, très présents dans les médias, là.
Ouais, mais je suis pas sûr que le gouvernement du Québec veut sortir M. Arruda trop souvent ces temps-ci. Ceci dit, il y a une conférence de presse aujourd'hui à 1 heure où Dr. Arruda devrait faire le point sur le variant Omicron. On va en savoir un peu plus, mais moi, je me mets dans la peau de Christian Dubé, là. Tu sais, présentement, là, t'as à peu près 10 000 infirmières manquantes dans le réseau, là. Sur 70 000, là, c'est considérable. Elles sont absentes pour différentes raisons. Il y en a qui sont en congé maladie, il y en a qui ont quitté. Il y en a qui sont réaffectés à des trucs liés à la pandémie, donc qui peuvent pas faire leur travail régulier. On n'a pas donné encore la troisième dose aux travailleurs de la santé, puis il y en a que ça fait plus que 6 mois. Notre système de santé est sur le point d'imploser. T'as 150 000 chirurgiens en attente, les urgences sont pleines, l'hiver arrive, puis on sait ce que ça fait, là. C'est COVID ou pas, là, ça augmente. Tu sais, moi, je serais un peu tanné à la place de M. Dubé de l'approche là, réactive et tardive de la santé publique qui... On va se croiser les doigts, on souhaitera pas que ça aille mal, mais donc on se donne pas de chance.
Au lieu de se croiser les bras, on va se croiser les doigts. Et on va laisser ça à M. Arruda. Merci, Patrick. Voilà. À demain.
Bonne journée.